En studio, Esther Hardy, recherchiste et chroniqueuse à Canal M que vous entendez habituellement à Sans détour, qui est ici exceptionnellement et peut-être qu'on va tellement l'aimer qu'on va l'adopter. Alors, si vous voulez mettre votre micro de l'autre côté, Esther, ça va bien aller. Allô, allô, Esther.
Bonjour, Hélène. Quel plaisir. Merci de l'invitation.
Ça nous fait bien plaisir, d'autant plus que vous avez travaillé fort pour préparer cette revue de presse Para, c'est ainsi qu'on peut l'appeler. Et vous allez commencer par, il y a toujours de l'international, des nouvelles à l'international et des nouvelles aussi nationales. Alors, commençons par la France. Vous allez nous parler d'un chien spécial qui s'appelle Oasis.
Oui, en fait, le chien peut-être n'est pas si spécial, mais ce qui est très spécial par contre, c'est que son professeur, Stéphanie Hélary, l'a invitée. En fait, c'est qu'une journée, elle travaillait, puis elle pouvait malheureusement pas laisser son chien comme elle avait l'habitude à la maison. Donc, elle s'est dit, bon, c'est pas grave, c'est un professeur, hein, c'est un professeur. Donc, elle a pensé le garder dans un jardin à côté. Mais finalement, lorsqu'elle est arrivée à l'école, les enfants ont eu une réaction absolument extraordinaire. Faut dire que les enfants, naturellement, ils aiment les chiens, mais c'est des enfants qui ont tous des difficultés, soit d'autisme, soit cognitif plus ou moins profond, je dirais.
Un spectre. Hein?
Voilà, tout à fait. Donc, en invitant son chien, dès que les enfants ont vu le chien, ils se sont mis à réagir puis à être beaucoup plus ouverts qu'ils ont l'habitude. Donc, ça l'a touché beaucoup. Puis elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un travail intéressant à faire en rapport avec son chien, ou n'importe quel chien finalement, et les enfants pour l'ouverture durant les classes. Mm-hmm. Donc, elle a commencé à l'utiliser pour sensibiliser les enfants à la responsabilité, ne serait-ce que pour prendre bien soin des animaux, ça c'est une chose, mais aussi à tous les niveaux. Ce qui fait que maintenant, ces classes sont devenues, le matin, on fait des maths, on fait du français comme toutes les écoles, et l'après-midi, c'est des activités plus ludiques, plus dynamiques, en rapport avec le chien, qui sensibilisent les enfants et les ouvrent et les rendent plus dynamiques.
Oui.
C'est ça qui est incroyable. À un point tel, Hélène, que le gouvernement français fait une étude sur ce cas-ci pour pouvoir justement le reproduire ailleurs, puis finalement donner cet outil supplémentaire-là
oui,
aux écoles.
Oui, parce qu'on parle souvent de zoothérapie, hein, les chiens.
Voilà,
qui,
exactement.
Dès qu'ils entrent dans une pièce, je dirais pas tous les chiens, il y a des petits caniches fatigants ouais. Puis des Dobermans qui peuvent faire peur, mais celui-là a l'air tout à fait beau. Je ne sais pas si on donne
c'est un pas un labrador, mais oui, c'est un labrador blond.
Un beau chien, ben c'est ça. Alors, ce sont des chiens qui créent vraiment du calme,
oui.
Ce qui inspire cette atmosphère-là.
Alors, c'est un chien pour les enfants, on l'appelle ouais. Ça, comme ça, là. C'est une catégorie. Elle, si je peux rajouter, Hélène, elle s'est même formée comme, comment est-ce qu'on appelle ça? Laissez-moi le temps de trouver.
Zoothérapeute, non?
En fait, elle s'est formée comme médiatrice canine.
Ah bon?
Carrément. Donc, elle a ajouté cette corde-là à son arc de professeur.
Un bel exemple
oui,
à suivre.
Magnifique.
Et on s'en va maintenant aux États-Unis. Vous nous parlez de bébés.
Oui, c'est très drôle. Quand j'ai lu cette nouvelle-là, Hélène, ça m'a vraiment étonnée. Est-ce que vous savez ce que c'est le mamanais et le parenté?
Non, mamanais, ça vient de maman et parentin.
Mais voilà,
ça
papa,
vient de papa.
Vous y êtes tout à fait, c'est exactement ça. Vous savez, lorsqu'on a un enfant de bas âge, je parle en bas de 2 ans et demi, souvent on va y parler comme ça. Allô, ma petite cocotte, bonjour, mon chéri, avec une petite voix aiguë. Toute en suavité et douceur et gentillesse et avec des notes très, très aiguës. Et
j'entends le bébé dire « Pourquoi tu me parles de même? Pourquoi tu me prends?
» Cette voix chantonnante, des scientifiques se sont rendus compte que c'était une façon de détecter l'autisme en bas âge. Bon, c'est toute une histoire. C'est que les bébés ont tendance à réagir à cette voix-là. Donc, les parents qui l'utilisent mm-hmm. ont finalement un super instinct extraordinaire.
Oui.
C'est quand même intéressant. Ils se sont rendus compte avec les souris que ces notes de voix-là suscitent beaucoup plus l'intérêt. Parce que normalement, on détecte l'autisme à l'âge de 3 ou 4 ans. D'accord? Mais dans ce cas-ci, en très bas âge, dépendant de la réaction du petit bébé, face à cette voix-là, on peut détecter s'il y a un spectre de l'autisme possible. C'est incroyable, hein? Donc, des tests ont été faits, puis on appelle, je vais essayer de trouver le terme exact. En fait, on mesure la vitalité de la pupille dans l'œil.
Quand on entend « As-tu bien mangé? »
Oui. C'est exactement ça. J'essaie de retrouver le terme. Bon, l'oculométrie. Donc, on mesure le mouvement de la pupille dans l'œil pour évaluer le niveau d'attention des tout-petits. Donc, cette façon de faire va faire date pour eux parce que c'est une façon maintenant de déterminer en très bas âge ce qu'on n'avait pas dans le passé. Hein. C'est ça, en fait. C'est qu'on a toujours été capable de détecter l'autisme dès les 3-4 ans, mais pas avant. Donc, ce sera un nouvel outil pour les scientifiques,
d'accord,
pour déterminer.
Mais est-ce que vous encouragez les parents à parler de cette manière à leurs enfants de 2 ans et moins? Parce que c'est le langage maternel, le langage paternel qui n'est pas nécessairement obligé d'être un peu joué ou exagéré?
En fait, je ne pourrais pas vous conseiller les parents à ce niveau-là. Ce que je peux dire, par
non,
contre...
Non, parce que vous n'êtes pas, je ne me souviens plus du terme.
Oui, je ne suis pas une
spécialiste dans la matière.
Triste. Non, par contre... Les chercheurs, eux, peuvent le détecter. Donc, au niveau médical, il est possible que les médecins entendent parler de cette nouvelle puis tranquillement dirigent les parents dans la bonne direction. À ce niveau-là, notre nouvelle ne le dit pas. Néanmoins, on peut savoir que cet instinct de parler avec cette voix aiguë-là, mm-hmm, aux enfants est tout à fait d'à propos.
D'accord. Alors, c'est vraiment la voix aiguë là, qui peut faire la différence.
Chantonnante.
De la part d'un parent. OK, alors une petite pause musicale. On poursuit maintenant en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Ah, écoute...
On sait ce qui se passe, il y a la guerre, évidemment.
Oui, voilà, l'Ukraine, naturellement, est en guerre. Mais c'est à coquiner avec l'Handicap international, qui est un organisme international, ouais, qui donne un paquet d'aides, justement, parce que présentement, l'Ukraine, on peut imaginer que, voilà, hein, c'est beaucoup de nouveaux handicapés, beaucoup de traumatismes. Donc, on a besoin d'un paquet d'outils pour pouvoir aider les Ukrainiens, finalement. Mm-hmm. Écoutez, ça m'émeut un peu de parler de cette nouvelle-là, naturellement,
évidemment,
parce que je trouve que l'Ukraine se responsabilise et va chercher tous les outils possibles et impossibles pour s'aider dans cette situation absolument révoltante et épouvantable. Donc, Handicap international, je ne sais pas si vous connaissiez déjà l'organisme.
Oui, on a fait quelques entrevues avec les porte-paroles d'Handicap international.
Donc, on a déjà près de 7 000 séances de réadaptation organisées pour les Ukrainiens. C'est vraiment un organisme extraordinaire.
Victimes de la guerre là, qui sont devenues amputées à cause de mines qui ont sauté, de bombes.
Tout ça, là. Ouais. Bon. Donc, ils vont faire l'utilisation innovatrice de l'impression 3D, naturellement, pour fabriquer des prothèses de tous les niveaux pour la réadaptation. Ensuite, ils vont faire un renforcement de services de réadaptation pour les grands brûlés, qui sont assez importants aussi. Et naturellement, il y a une aide, un soutien psychosocial, psychologique pour tous les Ukrainiens qui vivent quelque chose d'absolument épouvantable à l'heure actuelle. Donc, je trouve ça fantastique que... Handicap international soit sur le terrain avec eux et viennent les aider.
Oui, heureusement que Handicap international existe. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on pourrait recevoir un des porte-paroles qui est toujours prêt à nous parler. Ce sont des gens qui sont investis et qui veulent changer le monde pour le mieux. À Montréal maintenant, Esther, au CHU Sainte-Justine, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, c'est à nouveau l'autisme qui vient nous susciter notre intérêt. Les scientifiques, les chercheurs, en fait, de Sainte-Justine se sont rendus compte que jusqu'à maintenant, on croyait toujours que l'X fragile, écoutez, vous et moi ne savons pas exactement ce que c'est, mais c'est à quelque part...
parlez pour vous. Le X fragile, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est le chromosome, j'imagine?
C'est un syndrome, en fait.
Okay.
C'est qu'à l'intérieur du cerveau, on croyait qu'il y avait une suractivité pour les gens qui qui souffrent du spectre de l'autisme.
Ouais,
on
croyait, sont autistes,
oui,
qui sont autistes.
Des
personnes autistes.
Voilà. Ouais. Les personnes autistes n'avaient...
Parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise « souffre ». Si
oui,
vous
merci, merci de le dire,
c'est une condition
Hélène.
Et non de maladie.
Voilà,
ça me fait
tout
plaisir.
À fait. Oui, merci. Donc, on voyait à l'extérieur qu'il y avait une suractivité et on croyait que c'était la même chose dans le cerveau. Comprenant que ce n'est pas le cas, ça fait une énorme différence. On a utilisé des souris, on a fait toutes sortes de tests. En comprenant que c'était complètement l'inverse, qu'il y avait une sous-activité à l'intérieur du cerveau, maintenant, on peut le soigner de façon différente. Et essayer...
Il n'y a pas de géants qui se font, hein?
Ah, c'est fou,
ouais.
Hein? Non, mais moi, je suis extrêmement édifiée par cette nouvelle-là parce que ça change toute la donne pour les scientifiques. Vraiment,
ça
totalement.
Chamboule.
Ça chamboule totalement leur travail. Maintenant, ils vont avoir des solutions pour trouver un mécanisme, en fait, pour justement faire cette correction-là d'interprétation qui fait que justement, les gens qui ont l'autisme ne sont pas assez stimulés dans leur cerveau. Donc, ils vont remédier à la situation avec certaines techniques. On espère que ça va guérir certaines personnes. On le souhaite de tout cœur. Hein. Ce serait absolument fantastique.
Guérir, je ne sais pas, mais améliorer,
améliorer
leur condition.
Améliorer, tout à fait.
Et c'est un article que vous avez trouvé dans la presse du 17 février dernier.
Voilà.
À Beauharnois, maintenant... Il y a un nouvel équipement ludique et interactif.
C'est tellement charmant, chère Hélène. En fait, c'est au CHSLD Cécile Godin. On a adapté c'est un genre de console qui s'appelle Tovertafel. Naturellement, ça vient des pays nordiques. Ça signifie table magique en néerlandais.
Ah oui, table magique. Elle
Donc,
bouge.
Oui, en fait, elle bouge en accord avec les gens qui bougent autour d'elle. C'est une genre
surprenant.
De Wii, là.
Oui, oui, oui.
Pour les aînés, on projette sur une table toutes sortes de jeux. Donc, ça peut être une table avec des aliments, ça peut être des ballons, des bulles, toutes sortes d'activités. Et les personnes aînées ont un jeu pour interagir avec tout ça. Ce qu'on a constaté qui est absolument fantastique, c'est dès qu'on ouvre cette table, puis que les enfants, écoutez, c'est tellement ludique que je dis des enfants.
Les personnes âgées retrouvent leur cœur d'enfant.
Oui, voilà, exactement. Ça rit, ça s'amuse. C'est vraiment fantastique. Naturellement, c'est pas donné. Là, ça coûte quand même 20 000 $ à l'achat. Mais je pense que dans le traitement, justement, des gens qui ont des difficultés cognitives, c'est absolument fantastique.
Ça vaut le coup, ça vaut l'investissement.
Ça vaut vraiment l'investissement. Ouais,
c'est pas du gaspillage.
Non.
Esther, il reste encore un peu de temps pour parler d'un professeur bien spécial au Nouveau-Brunswick.
Oui, en fait, on se demande d'ailleurs comment il a pu y arriver. C'est qu'il a réussi à adapter sa formation à l'école à un de ses étudiants qui est non-voyant. En fait, naturellement, on sait ici que, justement, vous en parliez tout à l'heure, que les spécialistes se raréfient. Donc, M. Jean-François Ouellette a réussi à adapter sa formation pour son étudiant qui est non-voyant. Et il va recevoir un prix du Conseil de la Fédération, en fait, le prix d'innovation pour transmettre la matière à son étudiant. C'est absolument merveilleux.
Avez-vous donné son nom?
Monsieur Jean-François Ouellette.
D'accord. Alors, ben bravo, Jean-François Ouellette. Ça nous en prend plus de Jean-François Ouellette.
Oui, tout à fait. Puis peut-être aussi plus de temps pour les professeurs, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui auraient cette vocation-là. Puis malheureusement, ben
oui, du temps et des ressources.
Du temps et des ressources, voilà, exactement.
À Montréal, maintenant, le défi de l'ours polaire, en quoi il consiste?
Le connaissez-vous, chère Hélène?
Pas du tout.
Pas du tout. Bon. À chaque année, moi aussi, en fait, c'est un petit peu nouveau pour moi, à chaque année, dans le canal Lachine, on a un groupe de personnes...
Ah oui, oui, qui se lancent dans l'eau glacée!
Exactement!
Ah, je les trouve un peu fou ou très courageux.
Exactement, très, très, très courageux. En fait, c'était la 15e édition de ce défi-là qu'on appelle l'ours polaire. Et il est fait, non pas juste pour le plaisir de dire « je suis bon, je suis bonne, j'ai réussi », mais bien pour les déficients intellectuels qui font des sports. On amasse des sous pour eux.
C'est pour une bonne cause.
C'est une excellente cause. Hey, cette année, 200 personnes se sont littéralement lancées dans l'eau glacée du canal de la Chine. C'est complètement fou. Puis on avait de tout. Monsieur Fadi Daguerre, chef du SPVM, était là.
Oui. Naturellement. Est-ce qu'il s'est lancé dans l'eau glacée?
Oui, oui, oui. Les gens se donnent ce défi-là, puis même sont très encouragés. Je trouve ça absolument merveilleux. On avait de tout. On avait des artistes. On avait, enfin, tous ces gens-là. Ce
l'année
sont
prochaine,
de...
peut-être, pour vous, Esther?
Ah, je ne suis pas certaine.
À suivre. Et en terminant, quelques mots sur Sans détour du 6 mars.
Oui, lundi prochain, on a une émission extrêmement spéciale qu'on a consacrée, en fait, sur la consultation publique de la Ville de Montréal portant sur la traversée des rues, des mesures d'accessibilité universelle et de mobilité active. Donc, carrément, le trottoir, la traversée des rues, pour que ce soit pour chacun. Donc, on a beaucoup d'invités. La première heure sera consacrée à une entrevue avec M. Stéphane Laporte. On aura ensuite M. Tommy Théberge, qui travaillait à l'Institut Louis Braille, qui était membre du Conseil de ville de Longueuil. On aura aussi Mme Sandrine Cabana-Degani, présidente de Piéton Québec, M. Paul Mackey, directeur de Rue Sécure, M. Martin Barek-Komorowski, urbaniste, conseiller en aménagement et chef d'équipe au service de l'urbanisme de la mobilité à la Ville de Montréal, et Mme Laurence Parent, notre conseillère d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui est aussi présidente de cette consultation publique.
Une émission incontournable, c'est la semaine prochaine.
11h30 jusqu'à 13h30.
Super, merci beaucoup Esther
Hardy.
Vous êtes la bienvenue quand vous voulez.
Merci.